Bonsoir à tous. Les agriculteurs en colère à l'Élysée. Emmanuel Macron a reçu les principaux syndicats aujourd'hui. Ils réclament un ajustement des prix face aux exigences de la distribution. C'est tout le secteur qui est menacé, disent les jeunes agriculteurs. La piste d'un règlement de compte privilégié à Toulouse. Une fusillade a fait un mort et trois blessés la nuit dernière. C'est la deuxième fois en un mois que ça arrive. Dans ce journal également, l'initiative originale d'un footballeur qui fait le buzz après le transfert record de Neymar au PSG. Et Marine Le Génie, il a décidé de reverser une partie de son salaire à des associations.
Oui, un footballeur au cœur plus gros que l'ego, on va dire. Bon, c'est 1% du salaire, mais c'est un début.
Nous irons aussi en Dordogne, où les commerçants ont le sourire à la veille de la fin des soldes. Cette année, le Tour de France a amené du monde dans les magasins. Et puis, adios Contador, le pistolero prend sa retraite. Un champion passé par la case dopage, oui, mais qui restera dans l'histoire du cyclisme.
France Bleu Soir. France Bleu Soir. Viviane Le Guen.
La France touchée par le scandale des œufs contaminés par un insecticide toxique. 13 lots ont été livrés selon les autorités. À ce jour, les autorités françaises n'ont pas d'informations de contamination d'œufs en coquille ni de viande destinée à la consommation, dit ce soir le ministère de l'Agriculture. Des centaines de milliers d'œufs ont déjà été retirés des supermarchés aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique ou encore en Suisse. Des millions de poules pondeuses devraient être abattues aux Pays-Bas, pays d'où proviennent ces œufs contaminés. Ce sont des paysans en crise qu'Emmanuel Macron a reçus à l'Élysée. Une demi-heure d'entretien en tête-à-tête avec chacun des représentants syndicaux et notamment les jeunes agriculteurs. Ils réclament un juste prix face aux exigences de la distribution et de l'agroalimentaire. C'est une question de survie, dit Jérémy De Cercle. Faute de vivre de leur travail, les paysans sont de plus en plus nombreux à renoncer, selon le président des jeunes agriculteurs.
Nous sommes dans un pays où en moins de 10 ans, nous avons perdu plus de 25% des agriculteurs. Et donc, ça nécessite aujourd'hui qu'on se repose la question de comment on veut défendre l'agriculture. Et nous, on lui a demandé assez sciemment de faire en sorte que demain, nous ne perdions plus de paysans. L'État devra reprendre du pouvoir et faire comprendre aussi au monde économique qui entoure l'agriculture et qui ne l'aurait peut-être pas compris aujourd'hui, qu'il y a des paysans qui sont en train de se casser la figure tous les jours. Et donc ça aussi, le monde économique, la transformation, la distribution doit mettre le paquet et doit faire en sorte aussi d'équilibrer un peu les marges. On perd des paysans tous les jours, il n'y a pas une entreprise agro-industrielle qui tombe tous les jours. Donc voilà, il faut qu'il y ait un discours de vérité.
Jérémy De Cercle, le président des jeunes agriculteurs. Emmanuel Macron a annoncé qu'il présenterait des mesures pour les agriculteurs en crise mi-octobre. Les éleveurs premiers touchés aussi par la sécheresse. 80 départements ont pris des mesures pour préserver l'eau. C'est en Aquitaine que la situation est la plus critique. L'Aquitaine où ça tombe fort ce soir. Prudence si vous êtes dans le secteur. 13 départements au total des Pyrénées à l'Auvergne sont en alerte orange aux orages. Il doit pleuvoir toute la nuit et on attend de la grêle par endroit. La carte des départements concernés sur notre site internet francebleu.fr. En Corse, la situation s'améliore sur le front des incendies. Le feu ne progresse plus à Palneca, dans le centre de l'île. Mais une centaine de pompiers sont toujours sur place pour éteindre les dernières fumerolles. Les pompiers mobilisés aussi en Italie. Les flammes ravagent actuellement la région de Rome. La France a décidé d'envoyer 2 Canadair. Solidarité européenne, a tweeté le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Tandis qu'en Sicile, 15 soldats du feu ont été arrêtés. Ils auraient allumé des incendies et simulé des appels au secours pour toucher des indemnités d'intervention. 10 euros par heure. À Saint-Estèphe, en Gironde, 2 personnes sont mortes cet après-midi dans un accident d'ULM. Il s'agit d'un homme et d'une femme originaires de La Rochelle. L'accident s'est produit vers 16h, quelques minutes après le décollage apparemment, au moment où l'ULM survolait la piste pour saluer le personnel resté à terre. D'après un des responsables du club, il y aurait eu un incident mécanique. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances précises de cet accident. S'agit-il ou non d'un règlement de compte? C'est en tout cas la piste privilégiée ce soir à Toulouse, où une fusillade a fait un mort et 3 blessés la nuit dernière. C'était dans le quartier sensible de la Rennerie. Stéphane Garcia, les témoins que vous avez rencontrés sont formels, ça ressemble à une exécution. Les victimes, tous des jeunes gens, ont été volontairement visés.
Et un groupe de 11 jeunes qui étaient installés au pied de la tour Messager lorsqu'à minuit, deux voitures débarquent à toute vitesse dans le quartier de la Rennerie. Ensuite, tout se passe très vite. Quatre hommes cagoulés sortent alors des véhicules, armés de kalachnikov et de pistolets, et commencent à tirer en direction des membres du groupe qui vont s'enfuir dans tous les sens, raconte Fatima, la tante de la victime.
Il y avait un petit de taille. Il m'a dit à moi, quand il était en train de fusiller, il m'a dit « Pousse-toi, pousse-toi !» Et c'est là où j'ai dit « Arrête !» Et c'est là où moi, il a tiré la balle, ça flanchait. Il croyait qu'il était mort. Moi aussi, j'ai dit « Tu l'as tué, ils sont partis. »
3-4 minutes après, les tireurs remontent dans leur voiture et prennent la fuite. C'est à ce moment-là que les proches et les témoins appellent les secours. Mais trouvant le temps trop long, ils décident de charger les blessés dans des voitures pour les amener à l'hôpital Purpan eux-mêmes. C'est là-bas que mourra Redouane, 28 ans, tout récent père de famille.
Le parquet a ouvert une enquête pour crime avec des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat. C'est la deuxième fusillade en un peu plus d'un mois dans le quartier de la Rennerie à Toulouse. Quelques dizaines de personnes rassemblées cet après-midi à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Hommage à ce couturier chinois de 49 ans, décédé il y a un an à la suite d'une agression. Un meurtre à caractère raciste à l'origine d'une vague de manifestations l'an passé. Les trois agresseurs présumés mineurs au moment des faits doivent être jugés pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Le jeune homme qui a tenté de forcer un contrôle de sécurité de la tour Eiffel armé d'un couteau samedi est toujours en garde à vue ce soir. Elle a été prolongée de 24 heures hier. Le jeune homme âgé de 18 ans prétend avoir agi au nom du groupe État islamique. Il souffre de troubles psychiatriques. Ce sont des militaires qui l'ont stoppé ce week-end. Preuve que l'opération Sentinelle est plus que jamais utile selon la ministre de la Défense. Elle restera en place tant qu'elle sera utile à la protection des Français, a annoncé Florence Parly. Et elle sera prochainement adaptée pour s'inscrire dans la durée. Cela vous est peut-être déjà arrivé. Quelques minutes d'inattention dans le métro ou le train et le téléphone ou le portefeuille a disparu. Les pickpockets font le plein pendant l'été sur la Côte d'Azur, notamment bondée de touristes en ce moment. Alors la question qu'on se pose, Florian Cazola, c'est que fait la SNCF par exemple pour empêcher ces pickpockets d'agir ?
Eh bien, en renforçant ses équipes dans les trains et sur les quais de gare, notamment pendant l'été, d'après Chantal Vautier, la directrice de la Sûreté ferroviaire dans la région.
On renforce les tournées et les accompagnements des trains par les équipes de Sûreté ferroviaire, par les forces de police, en tenue d'une part, mais aussi en civil armé.
La SNCF installe aussi des caméras de vidéoprotection et diffuse des annonces dans les gares. Mais pour Michael Albin, contrôleur à la SNCF et délégué CGT, il est très difficile de les repérer.
Elles se fondent dans la masse, elles interviennent par groupe de trois, ce sont des jeunes filles. Une qui pique, une qui transmet, l'autre qui disparaît.
Les contrôleurs connaissent d'ailleurs la plupart des jeunes filles qui commettent ces vols, mais le temps de réaction des forces de l'ordre est souvent trop long selon lui.
Quand il y a un signalement, vous appelez le téléphone, il vous envoie à Paris. À Paris, il vous renvoie à Marseille. De Rennes à Marseille, il vous renvoie potentiellement sur une intervention locale. Alors, imaginez le cycle. Quand vous êtes entre Vintimille et Cannes, entre les tunnels, les interruptions et d'autres missions, c'est complètement inefficace.
Impossible cependant d'avoir des chiffres concernant le nombre de dépôts de plaintes liés à des vols dans les trains. Ni la SNCF, ni la police ne communiquent sur le sujet.
Un reportage de Florian Cazola dans les Alpes-Maritimes. 19h08 sur France Bleu, à suivre la fin des soldes. C'est demain, bilan positif en Dordogne. Le Tour de France a boosté la consommation. On reviendra aussi sur la carrière exceptionnelle d'Alberto Contador. Le cycliste espagnol prend sa retraite. Mais d'abord, l'argent dans le football. On s'intéresse à cette affaire qui fait polémique, ranimée ces derniers jours par le transfert record et ultra médiatisé de Neymar au PSG. Marine Le Génie, un footballeur, a décidé de prendre le contre-pied. Il s'appelle Juan Mata.
Oui, et le bling-bling, c'est pas son truc. Ce joueur de Manchester United a décidé de reverser 1% de son salaire annuel à des œuvres de charité et surtout demande à ses collègues footballeurs d'en faire autant. Le projet s'appelle Common Goal, le but commun en anglais.
Through Common Goal, I can team up with other footballers from all over the world. Together, we can use the game as a force for good.
Voilà, ensemble, utilisons le football comme une force, explique le joueur espagnol sur son site. Lui est payé 160 000 euros par semaine, indécent pour le commun des mortels, il le sait, il le dit haut et fort, et donne l'exemple donc en reversant 1% de son salaire.
Alors 1% de 160 000 euros par semaine, ça fait combien? Vous avez fait le calcul?
Oui, alors 1%, c'est environ 80 000 euros. Imaginez si tout le monde fait pareil. Et d'ailleurs, le vrai but de Juan Mata, c'est ça, entraîner les autres. Je mènerai cet effort, mais je ne veux pas être seul. Le football a le pouvoir d'avoir un impact social, mais nous avons besoin d'agir ensemble. Fin de citation.
Oui, c'est pas un petit peu démago tout ça quand même.
Alors oui, donner 1% de ses revenus ne justifie peut-être pas qu'on le qualifie de héros, c'est vrai, surtout quand les revenus en question sont insensés. Mais ce qui compte, c'est l'intention, systématiser la générosité, la généraliser, en faire une évidence. Et puis à terme, il rêve carrément d'une sorte de taxe du foot où tout le secteur reverserait 1% de ses revenus à des œuvres caritatives.
Ça fait rêver.
Voilà, même pour l'instant, aucun de ses collègues n'a répondu publiquement.
Merci Marine Le Génie. Affaire à suivre donc. On retrouve tous les détails sur cette initiative de Juan Mata dans l'œil du web sur notre site internet francebleu.fr. Le Sestar, ce navire affrété par des militants européens d'extrême droite, est bloqué au large de la Tunisie ce soir. Un puissant syndicat a ordonné à tous les ports de ne pas le ravitailler. Les militants d'extrême droite veulent empêcher les bateaux de migrants d'accoster en Europe en les repoussant vers l'Afrique. Vous n'avez pas fait les soldes, eh bien dépêchez-vous, ça se termine demain soir. Bilan mitigé, 3 Français sur 4 ont fait des emplettes cette année, ça c'est pour la tendance générale. En Dordogne en revanche, les commerçants s'en sortent plutôt bien. Il faut dire Xavier Dalmont que la météo et le passage du Tour de France ont favorisé les affaires.
À Périgueux, les premières tendances sont plutôt positives. Jean-Luc est responsable du rayon homme chez le chausseur Michard Hardier.
C'est mieux cette année que l'année dernière, c'est mieux en juillet. Et ça commence mieux en août. C'est vrai que le mois de juillet n'a pas été très beau, ça vient peut-être de ça, on ne sait pas en fait.
La météo maussade de juillet peut-être, le Tour de France plus sûrement. La grande boucle est restée 3 jours en Périgord. À Boulazac, Emeline est gérante du magasin Besson.
Je trouve que le Tour de France nous a apporté un flux, pas le jour J, ça c'est sûr qu'ils étaient beaucoup autour, mais avant et après du touriste. Il est plutôt positif, moi, le bilan des soldes de cette année.
Dans les rayons, les clients se laissent porter. Deuxième, voire troisième des marques ne sont pas forcément source de motivation.
Ça peut y contribuer un petit peu, mais bon, c'est pas non plus la principale raison, quoi.
Oui, je savais même pas que c'était encore en solde, alors vous voyez.
Les grandes enseignes ne boudent pas leur plaisir également. Chez Boulanger, par exemple, les soldes ont bien fonctionné à Périgueux.
C'est intéressant puisque en fait, l'afflux client n'est pas le même que tout au long de l'année, mis à part les périodes de Noël. Et on est assez content, on a un bilan assez positif.
Les soldes d'été ont duré 6 semaines. En juin, certains trouvaient cela trop long. Les avis ont un peu changé aujourd'hui.
Le reportage de Xavier Dalmont en Dordogne pour France Bleu. Tu ne cuisineras pas trop, tu utiliseras des produits frais et de qualité et tu allégeras ta carte. Les 3 commandements de Christian Millau, le cofondateur du célèbre guide Goemio, est mort ce week-end. Critique gastronomique, journaliste, écrivain pour le chef étoilé Marc Vera. Il a tout simplement révolutionné la cuisine française. Christian Millau avait 88 ans. Une dernière Vuelta et puis s'en va. Le cycliste Alberto Contador prend sa retraite. Il mettra un terme à sa carrière après le Tour d'Espagne qui débute la semaine prochaine. Double vainqueur du Tour de France, El Pistolero a aussi remporté 3 Tours d'Espagne, 2 Tours d'Italie. Une carrière ternie par le dopage mais qui reste hors norme pour le manager de l'équipe FDJ, Marc Madio.
Il a un beau palmarès, voire un très grand palmarès sur les grands tours. C'est avant tout un coureur par étapes, parce que sur les courses d'une journée, il n'a pas vraiment eu de grandes performances. Mais ce coureur avec beaucoup de tempérament, qui ne renonçait jamais, qui a souvent renversé des situations difficiles ou délicates pour lui en course. Mais c'est un peu une suite logique. On a bien vu sur le dernier Tour de France, il n'était plus tout à fait au niveau qui était le sien il y a quelques années passées. L'âge est également présent, il a une assez longue carrière derrière lui. On pouvait supposer qu'on était plus proche de la fin que du début.
Voilà, Alberto Contador qu'on verra une dernière fois donc sur le vélo la semaine prochaine pour le départ du Tour d'Espagne. Ce sera à Nîmes. C'est la première fois que le départ de la Vuelta est donné depuis la France. Lui veut monter sur la boîte, comme il dit, décrocher une médaille, entrer en lice de Christophe Lemaître tout à l'heure aux Mondiaux d'athlétisme. Le sprinteur qui sort d'une saison difficile, haché par des blessures, va disputer les séries du 200 mètres. C'est dans une petite demi-heure. 2 autres chances de médaille française ce soir. Alexandra Tavernier en finale dame du marteau à partir de 20h et Garfield Darien sur le 110 mètres haies. Finale prévue à 22h30. Tous ces horaires et les résultats sont sur francebleu.fr. À Nice, ça y est, c'est signé pour Wesley Schneider. Il rejoint le club de foot azuréen. Finaliste de la Coupe du Monde 2010 face à l'Espagne, Wesley Schneider est le néerlandais le plus capé de l'histoire avec 131 élection. Et puis si vous êtes dans l'est de la France, jetez un œil au ciel tout à l'heure, vers 20h, vous verrez peut-être l'éclipse de lune. Pas besoin de lunettes, il suffit de tourner le dos au soleil couchant. C'est rare, la prochaine est prévue l'été prochain. Allez, on se quitte avec un petit peu de musique. Peut-être que vous regarderez cette éclipse en musique. Ouais, pour regarder l'éclipse, hein, je vois sourire Marine Le Génie, hein, en voiture, en camping, en terrasse, pour regarder l'éclipse, impossible d'échapper au tube d'Espacito, chanson de l'été. Le clip a battu tous les records, près de 5 milliards de vues sur les différentes plateformes. On s'en laisse pas. Mmh. 19h15 sur France Bleu.
Pour emporter France Bleu partout avec vous, s'informer, se divertir, téléchargez et installez gratuitement l'application France Bleu sur votre smartphone.
Le temps, ça se dégrade demain sur la majeure partie du pays. On le disait, 13 départements des Hautes-Pyrénées à l'Auvergne sont en alerte orange aux orages. On attend de fortes pluies et de la grêle par endroits à partir de 21h. Ça doit durer toute la nuit. Averses orageuses qui toucheront la moitié est du pays. Dans l'après-midi, il n'y a que sur les bords de la Méditerranée qu'il y aura du soleil. Temps sec et toujours chaud, 18 à 24 le matin, 31 et même 35 en Corse. Il fera 17 à 24 degrés sur le reste du pays.